L'Évangile nous enseigne l'attention aux plus petits, à ceux qu'on ne regarde pas, à ceux que l'on méprise et que l'on rejette. Et j'ai voulu, pendant ces vacances, appliquer cette règle au texte biblique. En effet, dans notre Bible, il y a des vedettes. Le psaume 23 que nous avons lu, « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien ». Il y a des textes que l'on aime, que tout le monde connaît, la parabole du semeur, la parabole du fils prodigue ou autre. Et il y a des textes que l'on passe totalement sous silence. Et j'ai voulu essayer de sauver, si c'était possible, le verset le plus, j'allais dire, le plus nul de la Bible. Pour ça que j'ai intitulé cette prédication « Un verset sans aucun intérêt ». Il est tellement sans aucun intérêt, ce verset-là que j'ai choisi, j'aurais pu en trouver un autre, qu'il est même omis dans certaines traductions, on l'enlève parce qu'on considère que c'est tellement sans intérêt que c'est même pas la peine de le mettre. Ou alors il est mis comme un titre. En fait, là, il s'agit du titre d'un psaume. J'aurais pu en prendre un autre, j'ai pris le titre du psaume 30. Et dans ma Bible, c'est marqué en italique, comme si c'était un titre de l'éditeur. On met « Parabole du fils prodigue », après il y a le texte, mais le « Parabole du fils prodigue » n'est pas le texte sacré, c'est le titre de l'éditeur. Et la plupart des Bibles mettent le titre de ce psaume comme si c'était le titre de l'éditeur, alors qu'il fait partie du texte sacré, c'est le premier verset. « Cantique, chant pour la dédicace de la maison, virgule, de David ». Alors, j'ai voulu essayer d'écouter ce verset que personne n'écoute et qui me faisait pitié. Alors, certes, encore, c'est un petit peu de la virtuosité biblique. Et je prie de m'en excuser. En fait, je suis en vacances et j'ai voulu me faire plaisir. Donc, peut-être ça vous ennuiera, mais moi, ça m'a amusé d'essayer de faire ce qui semble a priori impossible. C'est presque un numéro de cirque. Alors, psaume... Donc voilà le verset, psaume, cantique, pour la dédicace du temple, virgule, de David. C'est un psaume adressé à Dieu, a priori pour l'inauguration de ce que le psaume appelle la maison, a priori le temple, hein, c'est comme ça que les Juifs désignent le temple de Jérusalem, on disait la maison, et c'est écrit par David, très bien. Mais il y a donc des complications et j'aime me poser des questions. D'abord, première question. Psaume cantique pour l'inauguration de la maison. Pourquoi y a-t-il au début deux mots différents pour dire « chanter » ? Pourquoi faut-il chanter deux fois quand on consacre une maison à Dieu ? Alors il y a deux chants, donc psaume cantique ou chant cantique ou ça dépend des traductions, cantique, chant, enfin il y a deux verbes différents pour dire « chanter ». Alors là, j'ai une explication que j'ai trouvée dans les commentaires rabbiniques. Les rabbins sont les seuls à commenter ce texte. Et ils disent, eh bien, c'est pour une circonstance exceptionnelle qui est la dédicace de la maison de l'Éternel. Donc, c'est normal qu'il faille au moins deux chants. Un seul, ça aurait été un petit peu minable. Donc, c'est pour dire l'importance de la chose. Et ça va peut-être même encore plus loin parce que je crois que pour dire la grandeur de Dieu... il faut le faire au moins de deux manières différentes. Parce que je crois que Dieu est si grand et dépasse tellement l'intelligence et ce que l'on peut en dire que Dieu ne peut jamais être enfermé dans un discours unique. Et Dieu ne peut pas non plus être présent dans une seule église, dans un seul type d'église ou dans une seule théologie. La seule théologie qui peut rendre compte de la grandeur de Dieu est une théologie qu'on appelle dialectique, c'est-à-dire qui est diverse et finalement extrêmement libre dans le sens que aucun discours théologique ne peut enfermer Dieu et chacun dit une parcelle, autrement dit, de Dieu. Donc oui, il faut deux mots différents parce que aucune confession de foi unique ne peut tout dire de Dieu, aucun chant, si beau soit-il, ne pourrait épuiser l'essentiel. C'est d'ailleurs ce que pensent les Juifs depuis toujours. Vous savez, ils ont plusieurs noms pour parler de Dieu. L'Éternel, le Seigneur, le Puissant, Sabaoth, ou encore d'autres termes. Et le seul mot qui désigne normalement absolument Dieu, Yahvé, le tétragramme, c'est un mot dont on ne sait pas comment il devait se prononcer et on n'a même pas le droit de le dire. Donc autrement dit, Dieu est pluriel. Les chrétiens ont développé ça, à juste titre, par la notion de Trinité, en disant « on ne peut pas enfermer Dieu dans un seul mot, Dieu, on ne peut le dire qu'au minimum comme trois aspects différents qui se complètent et qui sont l'un apportant quelque chose à l'autre, mais aucun, on ne peut pas enfermer Dieu dans une chose unique. » Donc voilà pourquoi il y a chant, cantique, donc pour l'inauguration de la maison. Deuxième hypothèse que je vous rapporte parce que j'ai étudié d'un peu plus près et je me suis aperçu que les deux mots utilisés, chant cantique ou psaume cantique, ne veulent pas dire en fait exactement la même chose. Le premier mot, zamar, veut dire chanter, c'est vrai, mais dans toute la Bible, ce n'est qu'un chant adressé à Dieu, un chant sacré, si vous voulez. Quant au deuxième mot, shir, ça désigne un chant, mais ça peut être n'importe quoi, une chansonnette, une chanson à boire, enfin c'est un chant tout à fait profane. Et donc le premier chant spirituel, dirais-je, j'ai pas voulu mettre psaume, parce que un psaume, nous aujourd'hui, on les lit sans les chanter, donc là c'est vraiment quelque chose de chanté. Donc je pense que la meilleure traduction du premier mot, c'est bien cantique, c'est-à-dire un chant religieux, et le deuxième mot, c'est un chant, tout simplement. Donc il y a bien deux manières de chanter Dieu, une manière religieuse et une manière profane. Alors là je suis ravi, parce que j'aime beaucoup cette idée, en effet j'aime beaucoup cette idée. Cela veut dire que quand on dédie quelque chose à Dieu ou quand on s'approche de Dieu, eh bien on peut le chanter à la fois avec ce qu'il y a de plus religieux en moi et en même temps avec ma vie de tous les jours, dans les aspects les plus profanes de mon existence. Et dédier sa vie à Dieu, la consacrer à Dieu, c'est pas simplement dire une fois par semaine j'irai à l'église ou au culte et là je vais faire des prières, je vais être très religieux et le reste de la semaine je vais vivre comme un mécréant. Ça n'est pas non plus de dire je suis très religieux parce que au moins 10 minutes par jour je fais ma prière et le reste de temps je ne pense pas à Dieu. Se consacrer à Dieu, c'est le faire dans toutes les dimensions de son existence, aussi bien par sa pratique religieuse, par sa prière, par sa lecture de la Bible, par tout ce qui fait de nous des gens religieux. Et consacrer sa vie à Dieu, ça se fait aussi dans sa manière de vivre au quotidien. Et tout ce que l'on fait dans la journée, même les choses a priori les moins nobles, les moins grandes, les moins exceptionnelles, peuvent être faites pour la gloire de Dieu et en louant Dieu. Paul nous le dit dans une de ses lettres, quand il dit « Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire du Seigneur ». Et alors c'est merveilleux parce que, effectivement, notre vie entière peut devenir une louange à Dieu. Et quand on regarde chaque geste en le pensant comme une prière et comme une offrande à Dieu, notre vie entière devient spirituelle. Bon, ça c'est très bien. Mais c'est un chant, un cantique, d'accord, mais c'est pour la dédicace ou l'inauguration de la maison. A priori, dans le judaïsme, la maison, c'est le temple. Et c'est corroboré par le fait que le mot « dédicace » dans l'hébreu, là, c'est un mot que vous connaissez, si vous avez des amis juifs, ça se dit « Hanouka ». Hanouka, c'est une fête juive qui est à peu près au moment de Noël, et qui veut dire dédicace, consécration. Et lors de la fête de Hanouka, les Juifs fêtent le moment où, après que le temple ait été détruit, je crois qu'on en parle dans le livre des Maccabées, eh bien, ils ont consacré, reconsacré le temple à l'Éternel. Et on trouve aussi le mot dans Nombre 7, quand Moïse, je crois, consacre le tabernacle, l'autel, tout ce qui se trouve là, il le consacre à Dieu et donc c'est Hanouka. Ce qui fait que les Juifs, lors de la fête de Hanouka, lisent évidemment le psaume 30, parce qu'en pensant qu'il s'agit de la consécration du temple de Jérusalem à Dieu. Bon, c'est très bien ça, c'est une belle idée, mais simplement ça ne va pas. Parce qu'il est écrit de David, or David, c'est pas lui qui a construit le temple. Le temple de Jérusalem a été construit par Salomon, son fils. Donc David n'a jamais pu écrire un psaume pour la dédicace du temple de Jérusalem, vu que tant que David était en vie, il n'y avait pas de temple à Jérusalem. Donc ça ne va pas. Alors, comment on s'en sort? J'ai une hypothèse, j'en ai même plein, vous imaginez, mais j'en ai en tout cas une. Et qui me semble assez belle, enfin, vous en jugerez. C'est que certes, David, du temps de David, le temple n'existait pas, mais il y avait déjà dans son esprit l'intention de construire le temple. C'est dit dans le texte, David voulut construire un temple pour l'Éternel, et en fait, Dieu lui dit, ben non, c'est pas toi, ce sera ton fils Salomon qui le construira. Et du coup, ça nous amène dans une théologie qui m'est très chère en tant que bon réformé, c'est que la foi est plus importante que les œuvres, et que la volonté profonde, ce que l'on désire de tout cœur, ce que l'on veut, ce vers quoi on se tourne, l'idéal que l'on prend et qui oriente notre vie, c'est ça qui nous sauve, plus que ce que nous parvenons à réaliser. David, de tout cœur, a voulu construire le temple de Jérusalem. Il n'a pas pu le faire, mais finalement, ça n'est pas grave, parce que ce qui est essentiel, c'est le projet qu'il y a derrière. Et ce qui est, que nous pouvons consacrer à Dieu, c'est pas ce que nous parvenons à faire, c'est le projet que nous avons, c'est notre projet de vie, c'est notre conviction, et c'est parfois plus important même que ce que nous réalisons. Parce que, comme le dit Paul, je suis à même de vouloir le bien, mais non pas de l'accomplir. Parce que même si j'ai un projet très pur, très grand, très magnifique, très 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 formidable, eh bien parfois je n'y arrive pas. Soit parce que je suis faible, ou parce que je suis pécheur, voilà, j'ai pas su faire. Soit parce que les événements, les circonstances ne me permettent pas de réaliser ce que j'aurais voulu. Mais oui, nous ne sommes pas jugés sur ce que nous parvenons à réaliser, mais s'il y a un critère, quelque chose qui est consacré, qui a de la valeur, c'est ce que nous voulons faire de tout cœur, et ce projet lui-même doit être consacré à Dieu. C'est assez important, ça, pour moi, d'autant plus en ce moment où je marie à tour de bras. En fait, les mariés, c'est assez amusant, consacrent leur couple à Dieu avant même qu'il existe. Ben oui, on pourrait dire, ben, je vais consacrer mon couple une fois que j'ai vécu 50 ans. Là, je pourrais dire, mon œuvre, je la consacre à Dieu. Mais non, en fait, ils consacrent à Dieu un projet de vie. C'est ça, un mariage. Ils disent, on a un projet de vivre ensemble dans la vérité, dans l'amour, dans la fidélité, toute notre vie. Et c'est ce projet qu'on consacre à Dieu. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ben, écoutez, après, on fait ce qu'on peut. Mais en tout cas, le projet est la chose la plus essentielle. C'est pour ça que, nous dit l'Écriture, nous sommes sauvés par la foi, c'est-à-dire par le projet, par la conviction, et non pas par les œuvres, c'est-à-dire par ce que nous réalisons. Alors, autre solution pour cette dédicace de temple, c'est de dire, c'est la dédicace du temple, mais en fait, dans le psaume, il y a écrit pour la dédicace de la maison. Et il n'est pas certain que ce soit forcément le temple, c'est peut-être simplement une maison après tout. Bon. Donc ça peut être une maison, chant pour la dédicace d'une maison. Et puis on peut aussi, comme il n'y a pas de virgule en hébreu, plutôt que de dire chant pour la dédicace de la maison avec un grand M, virgule, de David, comme si c'était le chant de David, on peut dire c'est le chant pour la dédicace de la maison de David. Et donc David consacre sa maison à Dieu. Et de quelle maison s'agit-il? Je vous l'ai dit, David n'a pas construit le temple. Par contre, il s'est construit un magnifique palais. Ah oui, alors la maison de David, peut-être que c'est non pas le temple, mais le palais de David, sa maison. Eh bien, ça ne me semble pas non plus une mauvaise idée. Tout ce que je vous dis, c'est pas à choisir l'un ou l'autre. Tout ça s'accumule, hein, c'est le propre de l'interprétation biblique. Tout ça est vrai en même temps. Et donc, belle idée que l'idée de se dire « ma maison profane, ma maison où j'habite, quoi, mon appartement, mon studio, ma chambre de bonne, ma maison de campagne, ce que vous voulez, je la consacre à Dieu ». Ça se faisait beaucoup autrefois dans la piété populaire, quand on s'installait dans une maison, on faisait venir un prêtre pour qu'il bénisse la maison, autrement dit. Et finalement, c'est pas tout à fait idiot, parce que je vous l'ai dit, ça permet, on passe du temple à la maison, mais ça peut faire en sorte que ma maison devienne un lieu sacré, comme un temple. Quelle idée saugrenue de penser que Dieu ne serait présent que dans les églises ou que dans les temples. Votre maison peut être le temple de l'Éternel. Votre maison peut être le Saint des Saints, le lieu sacré où Dieu est présent. Et il n'y a pas besoin de sortir de chez soi pour rentrer dans une église pour trouver Dieu. Dieu est déjà chez vous. Simplement, sachez que Dieu est là. Il est présent dans votre cuisine, dans votre salle de bain, dans votre chambre à coucher, dans votre salon, dans l'entrée, même dans les toilettes. Dieu est partout chez vous, et il est partout chez lui d'ailleurs. Alors ça, c'est très important pour moi, parce que je pense que, effectivement, comme tout à l'heure je vous disais que l'acte religieux ne se réduit pas à une pratique, mais l'acte religieux peut être dans la vie quotidienne, de même, faire de notre maison un lieu saint est une chose absolument magnifique, et qui va dans le sens d'ailleurs de la foi des réformateurs qui ont essayé toujours de gommer cette distinction entre le sacré et le profane. Comme s'il y avait des lieux sacrés et des lieux profanes, des temps sacrés et des temps profanes. Pour les réformateurs, et je les suis sur ce point, ce n'est pas, comme parfois on le dit, « Ah oui, chez les protestants, rien n'est sacré ». Non, chez les protestants, tout est sacré. Et on dit pas « Ah oui, c'est bien, chez vous, il n'y a pas besoin d'aller au culte ». Mais attendez, pourquoi ? Parce que c'est dans mon cœur, culte tous les jours. Et tous les dimanches, que je sois là ou ailleurs, c'est culte à l'Éternel. Et où même on dit parfois « Oui, chez vous, les protestants, il n'y a pas de prêtre ». C'est pas ça. C'est que tout le monde est prêtre. Et donc, le sacerdoce universel, tout est sacré, tout lieu est sacré, tout temps est sacré. Et ça se fait pas tout seul. Le danger de la réforme, c'est ça, c'est à force de se dire « tout est sacré, finalement rien ne l'est ». Et puis ça m'arrange, j'ai pas besoin d'aller au culte, donc je n'y vais pas et je regarde Netflix dans mon lit. C'est quand même, faut quand même faire quelque chose pour que ma maison devienne un temple. C'est, faut y penser, faut le vouloir et le consacrer à Dieu, c'est ce que fait David dans ce psaume, où il consacre son palais à Dieu pour en faire comme un temple. Et cette absence de distinction, évidemment, ça fait que, par exemple, ici, dans le temple de l'Étoile, vous le savez, quand il y a les catéchismes, les enfants poussent l'autel, ils enlèvent la Bible, ils mettent un but de foot de chaque côté, ils jouent au foot dans le cœur. Bon, ça choque certaines personnes, mais enfin, si Dieu voyait ça. Ben, moi, le Dieu dans lequel je crois, il est très heureux de voir des enfants jouer. Voilà, c'est tout. Et puis, l'idée de se dire... Il y a des choses qu'on fait devant Dieu et des choses qu'on n'a pas le droit de faire devant Dieu, par exemple de jouer ou de parler à haute voix, ça me choque. Parce que s'il y a quelque chose que vous ne seriez pas prêt à faire devant Dieu, ne le faites jamais. C'est tout. Voilà. Ou une chose est bonne ou elle est mauvaise. Et si elle est bonne, Dieu s'en réjouit. Et donc, ce lieu est un lieu où l'on prêche la parole, c'est le lieu de la présence de Dieu, mais Dieu n'est pas du tout furieux que l'on fasse une vente paroissiale, que l'on y fasse un dîner, que des enfants jouent, ou qu'on fasse d'autres activités, tant qu'elles sont, évidemment, conformes à notre idéal évangélique, ce que j'espère. Mais donc, voilà, il s'agit pas de désacraliser, une fois de plus, le temple, mais plutôt de tout sacraliser, et même ma maison. Et d'ailleurs, je crois que, dans ce texte, l'ambiguïté entre maison et temple est voulue. Il est essentiel que l'Église soit habitée comme une maison de famille et que notre maison soit sacrée comme une église. Alors, j'ai une autre solution. Chant cantique pour la dédicace donc de la maison, d'une maison, de la maison, virgule, de David. Maison, on peut l'entendre aussi bien en français que en hébreu comme pas forcément un bâtiment en pierre, mais comme une lignée, comme on parle de la maison des Orléans, la maison des Bourbons, ou comme on parle aussi dans la Bible d'ailleurs, de la maison de David. Jésus, donc, était fils adoptif de Joseph, qui était de la maison de David. Voilà. Et donc, la maison peut désigner la lignée. Et voilà encore une belle idée que je vous suggère pour les vacances. Surtout, c'est un moment où parfois on se retrouve en famille ou parfois les grands-parents voient des petits-enfants. Consacrer à Dieu sa maison, c'est-à-dire tous ceux dont nous avons la charge, tous ceux si on n'a pas forcément de lien génétique, mais tous ceux à qui on est invité à transmettre quelque chose parce qu'ils sont venus faire partie de notre environnement. Et ça, c'est une très belle chose aussi de consacrer à Dieu sa famille, si vous voulez, ou ses amis, son cercle le plus proche. Et le sens de ce psaume, tout ce qui est dans la suite du psaume que nous avons lu tout à l'heure, montre que justement cette façon de se consacrer soi-même à Dieu, de consacrer sa maison, de consacrer sa famille, ça permet d'échapper à la mort, de passer du deuil au rire, de passer de la nuit à la lumière et de donner la vie éternelle. Parce que justement quand on fait de sa famille, de ses enfants, ses petits-enfants ou ses amis, non pas des propriétés que l'on s'approprie, mais des choses, je dirais, qui ne sont pas dans l'ordre de la transmission animale, mais qui sont dans l'ordre du don spirituel et du partage, eh bien, on donne plus que la vie physique, on donne la vie éternelle. Vous avez un peu de patience, encore une autre solution ? Allez, allons-y. Le temple de l'Éternel. Je reviens au temple. Consécration, donc, du temple de David, virgule de David. Le temple de l'Éternel, qu'est-ce que c'est ? Je vous ai dit, il n'existait pas du temps de David, mais moi qui suis un lecteur de l'apôtre Paul, j'ai ce verset qui m'a trotté en tête et qui dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ?» Et donc le temple n'a pas besoin d'être existant en pierre à Jérusalem, le temple c'est vous. Alors vous me direz, oui mais là c'est tiré par les cheveux parce que c'est dans Paul et que les psaumes c'est dans l'Ancien Testament. Mais les Juifs de l'Ancien Testament avaient déjà eu cette idée. En effet, quand ils ont été, vous savez, exilés à Babylone, les Babyloniens ont détruit le temple, donc ils n'avaient plus de lieu saint, et les notables Juifs exilés à Babylone ont développé à ce moment-là une thèse qu'on appelle la thèse de la Shekinah, ce qui en hébreu veut dire l'habitation, en disant « mais en fait, on n'a pas besoin de temple ». Parce que Dieu ne réside pas dans un temple fait de main d'homme, mais il habite dans nos cœurs. Dieu demeure, chacun en hébreu, dans le fidèle et dans le croyant, et le croyant est lui-même le temple de la présence de Dieu. Et donc voilà, peut-être qu'il ne s'agit pas de la dédicace d'un lieu matériel de la part de David, mais qu'il se consacre lui-même à Dieu comme pour se faire de lui l'habitation de la présence de Dieu. Et tout ce psaume nous montre, là vous le relirez, je ne peux pas faire en détail pour vous, mais tout ce psaume montre que si on se consacre à Dieu, alors la question c'est d'accueillir Dieu dans sa vie, et que alors ça change beaucoup de choses, beaucoup de choses. Quand on fait de sa vie le temple de la présence de Dieu, quand on se consacre soi-même à Dieu, pas forcément pour devenir pasteur, prêtre, moine ou ermite, mais même dans sa vie de tous les jours, quand on se consacre comme serviteur de l'Évangile, eh bien ça change tout, parce que ça devient une vie où la peine se change en joie, la mort en vie, etc., et tout ce que l'on trouve dans ce magnifique psaume. Alors, encore un point, j'y pensais, j'allais oublier. Psaume cantique pour l'inauguration de la maison, virgule, de David. Alors, de David, ça, j'aime beaucoup ça, et je l'ai souvent dit du haut de cette chaire, pardon pour ceux qui trouvent que je radote, mais David, c'est certes le nom d'un roi, mais en hébreu, David, c'est aussi un nom commun, un mot commun, un nom commun, oui. David, en hébreu, ça veut dire l'amour. C'est comme ça, David s'appelait Monsieur Amour. Bon, c'est un nom comme un autre, hein, il n'y a pas de nom ridicule. Il s'appelait Amour. Et du coup, on pourrait très bien lire ce titre, non pas comme psaume cantique dédicace de la maison de David, mais psaume pour la dédicace de la maison de l'amour. C'est pas beau ça ? Incroyable, hein ? Psaume pour la dédicace de la maison de l'amour. L'amour qui peut être l'amour de Dieu pour sa créature, que l'on voit tout le long du psaume, l'amour de l'homme pour Dieu, ou l'amour entre prochains, pour ceux que l'on sème entre nous. Et donc, si on continue pour la dédicace de la maison, mettons-moi, ou du temple de ma vie, quand ma propre vie est appelée à louer Dieu, elle est appelée à être une maison de l'amour. C'est ça le but. parce que je crois que l'amour est tout. L'amour est transmission, j'en ai parlé. L'amour est adoration de Dieu, c'est ce que l'on fait dans le temple. L'amour est aussi consécration de sa vie à quelqu'un ou pour Dieu dans sa vie quotidienne. Et l'amour est aussi le fondement de toute la vie. Se savoir aimer, si on ne se sait pas aimer, on ne peut rien faire dans la vie. C'est la base de l'enfant, de l'adulte construit sur une vie d'enfant où il a été aimé. Et c'est pour nous la base de tout, de se savoir aimer. Et je crois que un des plus beaux messages de l'Évangile, c'est de dire, écoutez, quoi que vous fassiez, vous êtes aimé par Dieu. Il y a un Dieu qui vous aime. Et le but de la pratique religieuse, même si je vais au temple cette fois, c'est à la fois pour se rappeler l'amour de Dieu. On me le redit, vous êtes aimé, sauvé, sous la grâce, l'amour de Dieu. Et c'est aussi pour chanter ensemble les louanges de Dieu, pour dire son amour pour Dieu. Et c'est aussi pour écouter le pasteur qui vous prêche en vous disant « N'oubliez pas d'aimer votre prochain ». Et donc tout le culte n'est qu'un chant de l'amour pour refonder sur l'amour et inviter à l'amour. Et puis enfin, il y a un dernier, je vous ai promis de la virtuosité, alors ce coup-ci, là, vous allez me lâcher, mais tant pis, je vous l'ai dit, je m'amuse. Parce que tant qu'à faire de l'hébreu, rentrons dans les détails. Et si je prends les premières lettres des trois premiers mots de ce verset, Mizmor Shir Hanukat, ça fait les trois lettres du mot Mashiach, qui veut dire le Messie. Et Messie, c'est, vous savez, celui que les Juifs attendaient pour accomplir les promesses de Dieu. Et pour nous chrétiens, le Messie, c'est le Christ, c'est Jésus. Christ, en grec, ça veut dire Mashiach en hébreu. C'est le même mot dans deux langues. Christ, c'est le Messie. Et du coup, la base de ce psaume et le fondement de tout ce que je vous ai dit jusque-là, mine de rien, de consacrer sa maison à Dieu, de consacrer son temps, ses projets, sa vie et de rechercher tout ça dans l'amour, n'a qu'un seul fondement, le Mashiach, le Christ, Jésus. Jésus est la base et le but de tout, parce que lui nous a aimés jusqu'à donner sa vie et il nous appelle à aimer. C'est ce que je vous ai lu dans Jean 15 tout à l'heure. Et donc voici ce chant de dédicace qui consiste à dédicacer toute notre vie, dans toutes ses dimensions, à Dieu. Cette dédicace est fondée sur le Christ lui-même, base et but de tout. Et là, c'est message de vie, de consolation et d'amour inconditionnel. Autrement dit, c'est bien Jésus le Christ qui va accomplir le fait que notre vie puisse être dédiée à Dieu et que cette vie qui est la nôtre puisse être une maison de l'amour, c'est-à-dire le lieu même de la révélation de l'amour de Dieu et la possibilité pour nous d'aimer Dieu et d'aimer les autres, car comme le dit l'apôtre Jean, pour nous, nous pouvons aimer, nous savons aimer parce que Dieu nous a aimés en premier. Christ est celui qui nous permet de savoir que nous sommes aimés. Il a même donné sa vie pour nous, par amour. Et qui nous permet que notre vie puisse être un chant d'amour pour Dieu, qu'elle soit dédiée à Dieu, et de faire en sorte que Dieu habite de plus en plus dans notre maison, c'est-à-dire là où nous sommes, et aussi dans notre famille, dans nos relations, dans notre vie de tous les jours, dans notre corps, dans notre existence. Et c'est bien cela que le Christ nous donne. C'est Jésus qui représente en quelque sorte ce Dieu même dans nos vies, et qui vient dans nos existences accomplir toutes les promesses de Dieu. Et donc tout ce psaume nous est offert quand nous nous offrons à Dieu. Amen.